I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de We the Revolution. Oui, on remonte loin dans le temps. On fait tomber les guillotines. Ça va être le programme. Et The Division 2. Et là, on avance dans le temps. Et puis, c'est toujours autant la merde. Hein. En fait, dans un sens comme dans l'autre. Voilà.
L'apocalypse tranquille,
c'est
quoi.
Enfin, voilà, c'est tranquille, un peu tranquille. Est-ce que ça va être le fil rouge, hein, le bordel, la révolution, le voilà. Hein, non, on va pas faire de fil rouge. Le reste du programme, vous connaissez le com des com, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Et je commence en accueillant donc un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour.
Bonjour, ouais,
et non. Un nouveau venu dans l'émission. Et oui, encore un. Raphaël Lucas. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, comment
Salut,
ça
Raphaël.
Va
qui es-tu, Raphaël? Raphaël, on te connaît pour l'histoire du RPG, notamment quand même.
En 2014.
Cette Bible sortie en 2014, un boulot absolument dingue. Sur, évidemment, comme son nom l'indique, hein, l'histoire des jeux de rôle dans le jeu vidéo,
ouais,
c'est ça.
C'est ça.
C'était un truc ouf, quand même.
Moi, ah
j'ai
oui
lu. Non, quand même. Enfin, c'était un sacré taf, quoi, un sacré boulot. Hein. Non, ne nie pas. Non,
on va dire qu'on oublie au fur et à mesure qu'on écrit d'autres livres.
C'est ça. Le dernier en date,
c'est un livre chez Sard Edition sur Legacy of Kain.
Une grosse licence.
Une grosse licence, un peu oubliée peut-être maintenant, oui, par les joueurs les plus jeunes, mais... Oui.
Qui a marqué
esthétiquement et en termes de technologie, en fait, avec une sorte de morphing pour transformer le monde. Enfin.
On peut te lire aussi dans Jeux Vidéo Magazine et sur Gamekult.
De temps en temps chez Gamekult.
Voilà pour les présentations. On ne refera pas à chaque fois que tu viendras, parce que tu vas revenir après. Ce n'est qu'un début. On va commencer par toi, Patrick,
oui,
à parler de...
Comme tu veux dire.
Non, de réalité virtuelle.
Tu t'intéresses à la réalité virtuelle. Ça m'arrive, oui.
C'est vrai,
oui. Il faut parler des bonnes choses quand il y a des bonnes news. Et puis on en a eu du côté de Sony. Hein. Sony, évidemment, avec son PlayStation VR, il est vraiment au premier rang sur la réalité virtuelle, on va dire haut de gamme, hein, sur les casques perfectionnés, on va dire. Et puis, ils ont annoncé une bonne nouvelle, c'est le passage des 4 200 000 exemplaires vendus du casque.
Enfin, le passage des 4 millions.
Ils ont dépassé les 4 millions, en fait.
Oui,
ils sont à 4
le
millions.
Le passage de... des 200
000. Les 4 millions, ouais, 200 000 exemplaires. Donc, c'est un très bon score. Enfin, vraiment, ça en fait vraiment le casque leader sur ce qu'on appelle le casque haut de gamme. Donc, on n'est pas sur du téléphone qui sert de réalité virtuelle, on est sur du haut de gamme, et donc ça devient vraiment un marché qui existe, qui est là, qui commence à avoir des chiffres de vente importants. Et ce qui est une bonne nouvelle, c'est que ça encourage aussi Sony à travailler sur une prochaine génération de ce casque. Des rumeurs parlent d'un casque certainement sans fil, certainement sur la PlayStation 5. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça, c'est un essai, entre guillemets, réussi pour Sony sur ce PlayStation VR et qu'il y aura certainement des suites. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis, alors, le hard, c'est bien, mais on a le soft aussi qui est important. Et puis, on a eu pas mal de choses qui ont été présentées pendant le State of Play, vous savez, cette conférence de Sony. C'est un peu ce nouveau format qui avait été initié par Nintendo de format vidéo comme ça où on déploie des jeux à venir. Là, Sony s'y met aussi avec cette conférence vidéo qui a été diffusée cette semaine. Et puis, il y a eu quelques annonces intéressantes, notamment côté VR, à côté de jeux PS4 traditionnels. Ça m'a fait envie. C'est le No Man's Sky, le fameux No Man's Sky, hein, qui est sorti en 2016, qui a eu 1000 vies depuis, hein, parce qu'il a été repatché,
retransformé. J'ai pas joué à la nouvelle version.
Et moi non plus. Et là, je vais le ressortir parce que là, on a eu l'annonce d'une extension réalité virtuelle à mode VR qui arrive gratuit. Ça s'appelle Beyond. Ressortez vos galettes, réinstallez le jeu. Il va être mis à jour pour être jouable en VR. Et moi, je trouve que ça colle complètement. Et je crois même que j'en avais parlé à l'époque, quand on avait pris en main la première version. Je m'étais dit, mais ce jeu, il faut le faire en VR parce que on est tellement sur de l'exploration, sur du décor, sur un rapport à cet univers qui avait vraiment une patte graphique bien particulière. Donc voilà, on a une vidéo qui fait envie. Bon, tout ça, c'est de la vidéo en 2D, donc il faudra l'essayer avec le casque le moment M lorsque ça va sortir. Mais je trouve que l'idée est bonne. Et puis c'est vraiment l'exemple type, c'est un cas d'école hein, quand même. Ce type, je me rappelle encore des développeurs qui s'étaient pris en photo avec la galette. Oui, ça y est, il est parti en pressage, mais c'était rien. C'était vraiment le tout début de l'histoire de ce jeu qui n'est pas fini, qui continue à s'écrire. Je crois qu'il y a eu des extensions qui sont arrivées encore récemment. Il n'arrête pas d'évoluer, ce jeu. En tout cas, moi, la VR, ça va vraiment me faire réinstaller, ressortir de la galette et le réinstaller. Ça, c'est une chose qu'on va suivre de très près. Et puis moi, un autre titre, hein, il y en a eu pas mal, mais un autre titre qui m'a tapé dans l'œil, c'est Blood and Truth. Blood and Truth, je sais qu'on fait attention à la prononciation. Donc, jeu d'action, aventure, vue subjective, qui est développé par Sony Londres. C'est les gens qui avaient fait la démo The Heist dans la fameuse démo, contenu démo du PlayStation VR, qui était pour moi un des temps forts vraiment de ce...
C'était la scène dans la bagnole, c'est ça?
C'était dans le VR Worlds, qui était le jeu qui accompagnait le casque, et c'était ça, la séquence en voiture, la séquence d'interrogatoire où il y avait une présence physique, je trouve, du personnage en face de soi qui était vraiment bluffante à l'époque. Et voilà, c'est l'équipe qui là présente un jeu complet qui est plutôt intéressant, visuellement assez prometteur.
Est-ce que l'avatar bouge?
Comment?
Est-ce que l'avatar bouge? C'est-à-dire, est-ce que
est-ce
comme
qu'il se
les
dans l'univers?
A priori, parce que j'ai vu, oui.
Non, mais pour moi, je suis encore désolé, mais c'est la limite à ne pas franchir. Moi, je suis fan là-dessus. De Batman VR, je suis fan de The Heist, je suis fan de plein de choses où mon avatar en VR est dans la même position et dans le même mouvement que mon corps, et il n'y a pas de dissonance et tout ça. Parce que moi, dès que ça arrive, et c'est pour ça que No Man's Sky ne m'intéresse pas du tout, parce que je n'imagine pas du tout qu'on puisse. Bah, il y aura ce déplacement dans No Man's Sky. C'est un jeu en vue subjective où on se déplace, et moi je n'y arrive pas.
Mais tu n'as pas essayé Doom VR, toi, hein?
Non.
Ah, il faut que
mais non, je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas. La dissonance.
Ouais, mais alors, très fort, ça dépend vraiment de la réalisation, encore une fois. Ça dépend de comment le jeu est conçu, comment il est pensé, comment l'affichage est pensé. Et Doom VR ne m'a pas rendu malade du tout. Alors que
toi, tu es tellement accro que ton cerveau s'adapte, s'est adapté à ça.
Tu as joué comment à Doom VR? Est-ce que tu as joué en faisant les téléportations?
Avec la manette. D'accord. Avec le vrai mouvement, mais ça marchait bien, alors que des jeux moins bien réalisés peuvent me rendre malade. Ça dépend vraiment du rafraîchissement.
Non, mais on sait très bien qu'à force. Le cerveau, il s'adapte à ses déplacements dans l'univers
virtuel. Ton cerveau fusionne avec le casque VR. Tu as les neurones qui commencent à fusionner, qui collent, tu sais, quand tu retires le casque. C'est... Et en fait, tu sens plus rien.
Non, mais il y a de ça. Mais
en tout cas, la réelle est prometteuse, ce jeu. Il me fait envie, mais j'aime bien l'ambiance. Tu vois, l'ambiance londonienne, polar. Donc, ça me branche et... on va suivre ça de près. Alors, moi, il y a un Iron Man qui a été présenté qui me fait pas rêver plus que ça. Faites-nous Rocket Ranger à la limite sur un truc comme ça de tir dans le où tu voles, mais faites-moi un Rocket Ranger en VR.
Petite parenthèse, à la limite Iron Man, tu peux imaginer quelque chose de l'ordre où ton avatar est dans la même position que toi.
C'est du rail shooter, visiblement.
Cette idée, tu sais, d'avoir l'univers à la Tony Stark quand il voit l'intérieur d'Iron Man.
Presque à la Rez, quelque part, où tu es comme ça sur un mouvement. Bon, après, moi, le jeu m'a pas fait envie que ça.
De toute façon, moi, le seul jeu de VR que j'ai pas essayé, c'est le jeu avec les épées laser là, de rythme. J'ai toujours pas essayé. Beat Saber, il paraît que c'est très très bien.
Il y a des fans.
Ça, puis hors VR, dans cette conf, il y a eu aussi Observation, c'est ça? Un jeu qui a l'air intéressant, où on va incarner une IA dans une base spatiale. Un rapport au personnage qui a l'air intéressant en termes de mise en scène et de concept de jeu, qui me fait envie. Ça m'a un peu rappelé l'expérience 112 de Lexis. Et tu vois, ce rapport à l'image, ça me fait envie.
Au-delà
j'enchaîne sur une autre news. C'est la rumeur du moment, qui a l'air quand même très sérieuse, puisqu'elle vient du Wall Street Journal. Donc, c'est pas rien. En général, ces gens-là, ils balancent pas des infos comme ça à tire-larigot. C'est la grosse rumeur de deux nouveaux modèles de Switch qui seraient présentés dans les mois qui viennent, qui pourraient sortir la courant en 2019. En gros, deux nouveaux positions. Positionnement, un entrée de gamme plutôt genre type 2DS, un peu l'équivalent de la 2DS, donc une machine simplifiée, sûrement plus solide pour être plus accessible pour les enfants. Donc,
et a priori avec uniquement mobile.
Uniquement nomade, avec sûrement des fonctionnalités en moins. On parle de Rumble qui disparaîtrait, donc voir quelque chose de plus compact, certainement moins cher aussi, un ticket d'entrée plus accessible. Et puis à côté de ça, une machine, moi qui me laisse plus perplexe, qui serait une Switch haut de gamme, avec certainement une dalle de meilleure qualité, tout ça. On avait déjà parlé de ces rumeurs, là elles semblent se préciser. Alors, est-ce que la Switch actuelle va rester active? C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait eu la Switch actuelle plus deux nouvelles itérations? Ça commence à faire beaucoup.
Yep. Oui, mais regarde, c'est ce qu'ils faisaient déjà Nintendo sur DS, 3DS, etc. C'est qu'il y a eu plusieurs versions.
Alors, c'est pas toujours simple à suivre, après, attention, hein, pour le consommateur, de savoir sur quelle machine s'orienter. Ça peut perdre un petit peu.
Moi, là, sincèrement, pour être hyper la cible de cette Switch pour enfants. Hein.
C'est vrai que t'es resté très jeune.
Là, par exemple, dans les jours qui viennent, là, on est le combien aujourd'hui. On enregistre. Je regarde. Je suis désolé, je n'ai pas la date, donc je ne sais pas combien on est. On est le 28. Demain, voilà, le jour de la sortie de ce podcast, il y a Yoshi Crafted World qui sort sur Switch.
Un comment moment décisif que tu crains, que tu repousses depuis des...
j'ai fait un lobbying auprès de Nintendo pour repousser encore la date. J'ai pas réussi.
Non, t'as peur qu'elle tombe. T'as peur que ton petit...
Ah non, mais mon fils n'attend que cette date. Il a compté les jours de la même manière que le Nintendo Labo. Hein. C'est pareil, il a compté les jours avant la sortie de Yoshi Crafted World. Donc là, je ne peux plus rien faire. Il aura la Switch dans les mains pendant les semaines qui viennent. Et c'est un peu flippant.
Non, je trouve que cette version Kids... plus ramassé, moins cher, c'est une très bonne idée. Moi, sur la version haut de gamme, j'espère qu'il y aura une proposition vraiment excitante. Moi, naïvement, j'espérais que la Switch soit un peu une machine pérenne qui reste. Tu vois, à chaque fois, j'ai cette naïveté de me dire, ça y est, là, on a la machine qui va rester 5 ans, qui va...
Et bon, après Nintendo,
ils savent faire. Ouais. Et bon, on verra ce qu'elle propose. Hein, s'il y a une Switch haut de gamme qui arrive, à quel prix elle sera, etc. Bon.
Rappelons quand même que Nintendo est le constructeur de consoles qui fait des bénéfices sur ses consoles Day One. Hein, c'est le seul qui sait faire des bénéfices dès le premier jour. Ouais. Donc, pourquoi se priver?
Bon, encore une fois, ce qui est important à préciser, c'est que ça restera des jeux Switch. C'est-à-dire que le format Switch actuel, à l'heure actuelle, restera. C'est-à-dire que voilà, ce seront les jeux actuels qui vont être déployés sur d'autres hardware. Comme on avait la New 3DS qui était compatible avec les
donc, ce que ça veut dire, etc. C'est que la version prestige, on va dire, de la Switch, ce sera juste peut-être une meilleure résolution, une fois qu'elle est branchée à l'écran, des choses comme ça.
Ouais. Des plus qui viendraient se greffer à la proposition actuelle. Donc, à voir.
Raphaël, juste une toute petite news, mais
très rapidement,
mais qui fait plaisir quand même. C'est un jeu dont on a parlé ici il y a, je crois que c'était à la fin de la saison passée, parce que je crois que c'est un jeu de juin 2018.
Oui,
si
c'est l'année dernière qui est sorti,
c'est ça, qui arriverait sur téléphone.
Oui, il arrive sur téléphone portable. Il s'appelle Cultist Simulator. On invoque des grands anciens, on crée sa secte, on devient fou.
Normal, quoi.
Tout à fait logique quand on est dans un monde à la Lovecraft, et c'est ce que fait Cultist Simulator, un jeu de cartes narratif. Je pense qu'on peut dire comme ça.
C'est un jeu de cartes narratif.
Avec des jauges partout.
C'est une expérience de dingo quand même. Parce que alors, ton personnage devient fou, ça c'est inévitable. Toi aussi, hein, parce que tu as tellement de jauges, de timing.
Peux mettre sur pause.
Ouais, et tu peux mettre sur pause.
Heureusement. Ouais. Ouais. Et ça sort sur. Ça a été annoncé il y a quelques jours. Ça sort le 2 avril, donc d'ici début de semaine prochaine.
Il est traduit ou pas?
Non, toujours pas.
C'était le gros.
Trop cher à traduire.
C'est genre énormément de contenu.
Donc si vous aimez Lovecraft, si vous aimez. Invoquer des anciens, maintenant vous pourrez le faire dans le métro.
Alors, on précise, j'avais précisé à l'époque que c'est un jeu qui demande, qui a une porte d'entrée, un coût d'entrée entre guillemets, en dehors du coût financier effectif, mais un coût d'entrée assez élevé. C'est-à-dire qu'il faut s'y plonger,
il faut vraiment prendre son temps,
s'immerger, lire aussi. C'est-à-dire que c'est pas un de ces jeux où tu prends un livre dans la bibliothèque et tu ne le lis jamais. Hein. C'est pas The Witcher, c'est tous les livres sur lesquels tu tombes. Toutes les cartes, tu les lis parce que tout est important. Et donc, c'est aussi beaucoup un jeu de lecture parce que bon, c'est très bien écrit, c'est en anglais, c'est très bien écrit, mais
ça sort bientôt. Et donc,
c'est cool.
Si vous avez pas, et je pense qu'il sera à prix réduit, à téléphone, 5€, 10€ maximum. Je crois qu'il est à 20 sur PC et Mac encore, il me semble. Voilà. Donc, mais si vous voulez le faire, ce que je disais il y a 5 minutes, invoquer des grands anciens dans le métro, ça n'a pas de prix.
Ça sort le 2 avril, le 2 avril sur les téléphones. Le com des coms de la semaine dernière où nous parlions notamment de l'annonce du service en streaming de Stadia, où je m'étais lancé dans une approximation de Fermi qui était approximative, notamment parce qu'il y a donc des auditeurs qui m'ont corrigé. Alors, parce que je parlais, voilà, il y avait ces photos dans l'annonce de Google de ces racks de serveurs Stadia, où en fait, moi, j'avais fait un calcul supposant qu'un rack de serveurs correspondait à 10,7 teraflops annoncés par joueur. Et là, on me dit que les serveurs de... Alors, c'est Toolcast, notamment, les serveurs pour le streaming de jeux vidéo ne sont pas des PC classiques empilés dans une armoire. On peut donner l'exemple du Nvidia DGX2. Qu'est-ce que c'est ? Dédié justement au streaming de jeux vidéo. Alors, il met un lien vers la doc. Et donc, en fait, il faut savoir que la bestiole fait du 2 pétaflops. Hein, donc, du 2000 teraflops. Donc, du 200 utilisateurs de Stadia pour... une machine.
Ah ouais.
Alors après, la hauteur, c'est pas la hauteur que montre la photo de Stadia. Stadia, c'était la photo où un Stadia, ça faisait un rack, un espace de serveur. Effectivement, c'est un peu plus gros, hein, le Nvidia DGX2. Il est à hauteur 440 cm. Hein, voilà, donc on peut peut-être. Donc, Tulkas dit qu'on peut en mettre 4 dans une armoire de serveur, ce qui fait déjà 800 utilisateurs par serveur. Alors j'avais fait un calcul que si on mettait un serveur par utilisateur et que Google, je rappelle mon approximation, et que Google devait pouvoir offrir son service, sa promesse au tiers de ses utilisateurs à un moment T, donc il devait pouvoir, et que son ambition était de servir ça à 2 milliards de joueurs, donc il fallait qu'il ait les configurations pour servir 660 millions de joueurs, et j'avais calculé que ça faisait 10 000 km d'armoire de serveurs.
T'as fait les maths à l'université, ou bien parce que là, je crois que t'avais deux de regards à gare devant toi, là, qui t'étaient...
c'est des calculs à faire pour avoir...
Une question toute bête, mais tout le monde ne joue pas en même temps, la planète fait que... gens qui dorment, d'autres qui jouent.
Je rappelle mon approximation. Ils avaient une ambition de 2 milliards de joueurs. J'avais dit ils doivent pouvoir servir 660 millions de joueurs
en même temps.
Intentés.
A priori.
Voilà, c'est tout. Mais voilà, bon, j'avais fait ce genre de calcul. Ils précisent aussi. Alors, c'est après. C'est pour. c'est pour des choses comme la consommation.
Les chiffres, c'est pareil.
La consommation d'énergie, par exemple. Ouais. Il a fait aussi le calcul. La
combien
consommation
centrales nucléaires pour
la consommation d'un serveur de ce type, c'est 18 000 watts. Et en fait, une PS4, c'est grosso modo 100 watts. Donc, 200 joueurs de PS4, c'est 200 fois 100. Donc, ça fait 20 000 watts, 18 000 watts. C'est à peu près... Enfin, on est dans la même échelle. Hein. Donc, c'est pas forcément énormément d'économie d'énergie de centraliser ça. C'était une question qui était posée aussi.
Qui se pose.
Alain San, hein, donc, qui me dit, Erwan, tu te cours complètement dans ton calcul. Ça aurait été vrai il y a 10 ans.
C'est bien, on a une communauté qui veille. Et ça,
mais
c'est
il
très
est
bien.
Complètement
c'est
faux. Avec l'avènement de quoi? Avec l'avènement de la virtualisation et des docklets. C'est quoi la virtualisation? C'est que tu prends un processeur et tu le partages entre plusieurs utilisateurs à intenter. Voilà, il m'invite donc à regarder ce que font les professionnels comme le service Azure de Microsoft et S3 de Amazon. Tu ne loues pas un serveur, mais une bande passante, un stockage et de la puissance. Car en fait, tout est virtualisé en fonction de tes besoins. Ton application va être en fait partagée sur 50 serveurs ou elle va utiliser elle-même 10 serveurs. Enfin, c'est en fonction de tes besoins. Les technologies de partage de ressources et de virtualisation ont vachement progressé ces dernières années. Donc, pour schématiser un peu, tu peux très bien avoir sur un serveur 200 Hotline Miami qui tournent ou avoir un Star Citizen à fond les ballons sur deux serveurs physiques. Voilà, c'est pour expliquer ça. Tout ceci, c'était sur mon approximation sur essayer de rendre physique ce cloud, ce Stadia.
Il y a des enjeux énergétiques de puissance de calcul qui sont vrais, enfin qui se posent.
Oui, bien sûr.
Ça pose beaucoup de questions. Après,
ça ne change absolument rien sur mon interprétation de ce que propose Google, c'est-à-dire de centraliser la puissance de calcul d'Internet chez eux, et que en fait, ce qu'ils proposent, c'est un Minitel HDR 8K 120 FPS. Donc, il ne faut pas oublier que ça change aussi le rapport qu'on peut avoir avec
j'aurais pas osé, ouais, Google, Minitel, oui.
Non, mais c'est ça, c'est pas autre chose. Bref, on va commencer cette émission quand même en parlant de jeux vidéo, et on va commencer en revenant dans le passé. Je crois qu'on revient en 1794, si je ne m'abuse. Il s'est passé quelque chose 5 ans auparavant. Ça s'appelle la Révolution française. Et donc le jeu, c'est We the Revolution.
Is the fallen king our equal? Equality. We have convinced people to believe in it. And they grabbed their torches and thanked us by impaling the witches' heads on pikes. Equality. Even animals know that there's only strength and weakness. But brotherhood, it is our one true success.
It is the bond that led you all to my table. Let us eat and drink to that brotherhood, gentlemen.
Ah, ça fait mal. Vous l'avez reconnu. On a reconnu ce son. Ça va très bien avec l'époque. Hein. We the Revolution. Donc on est en 1794. La terreur bat son plein dans la capitale française, à Paris. Et c'est donc une production d'un studio polonais, qui s'appelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout une production franco-française, hein, c'est le studio Polislash, studio polonais qui propose depuis, donc c'est sorti il y a quelques jours, With the Revolution. Raphaël, tu y as joué.
Oui, j'y ai joué, tout comme toi.
Oui, tout comme moi.
Et d'ailleurs, ce qu'il faut noter, les auditeurs l'ont entendu, c'est que le jeu est en anglais.
Sous-titré totalement en français et interface en français aussi.
Interface en français, évidemment, mais toutes les voix sont en anglais.
Ouais.
Alors que dire sur With the Revolution, que c'est un jeu d'aventure, donc qui se passe pendant la Terreur. Tu joues le rôle d'un juge.
Oui, d'un juge, Alexis Fidèle.
Alexis Fidèle. J'avais Fidèle en tête parce qu'on note à chaque fois à la fin de chaque cas, on signe avec le Fidèle et avec un tampon qu'on crée nous-mêmes. Et donc, en fait, on juge divers personnages et divers, je sais pas, je crois qu'il va y avoir une soixantaine de cas sur trois actes. Et parmi ces cas, il y en a des très légers, on va dire, enfin, entre guillemets, puisqu'ils peuvent mener quand même à la prison ou, il me semble, à la guillotine pour certains.
À partir d'un moment, tout le monde
va à la guillotine.
Pratiquement. En fait,
c'est le choix du joueur.
Voilà, c'est le choix du joueur. Et ça évolue. L'histoire du jeu et l'histoire de France, finalement.
Et l'histoire du personnage.
Impose aussi une évolution dans le système de jeu. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, pour une raison d'accélérer un petit peu les choses, parce que tout ceci prend un peu beaucoup de temps, eh bien, on enlève la case prison. Hein, parce que
oui,
donc soit liberté, guillotine, hein, pourquoi
c'est binaire,
s'embêter. Ah oui, c'est ça.
Avant, au début, on a trois choix normalement, je crois, de souvenirs.
Et puis on peut retrouver aussi ces choix par ailleurs, mais
c'est un système en fait de sous l'apparence d'un système de jeu d'enquête, ce qui n'est pas vraiment, parce qu'en fait il faut juste déduire des questions qui sont imposées. C'est surtout un jeu où on gère les opinions, les influences. On a plein de jauges, la révolution, enfin les révolutionnaires, les gens du peuple, le jury, et il y a plusieurs manières en fait d'influer dessus.
C'est ça en fait. Si on veut, on reprend. Effectivement, c'est un jeu narratif. Un jeu narratif qui raconte l'histoire donc du personnage principal que l'on incarne, ce juge donc Alexis Fidèle, qui donc au début, donc en 1794, c'est essaye à des cas donc des aristocrates, des
Il y a aussi son fils.
Au tout début, on commence par juger son fils qui a été pris par une bagarre de cour d'école. Et donc
comme ça, il est un peu rappelé le contexte. Il y a des
tout le temps.
Il y a des aides. C'est important. C'est vraiment recontextualiser les enjeux.
On recontextualise
l'ambiance quand même qui règne.
Il y a des cutscenes fixes.
Ouais. Il y a énormément de choses à dire parce que effectivement, on pourrait penser, quand on commence le jeu, à faire une sorte de parallèle avec Ace Attorney.
Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que j'ai vu, les images
sur le procès. Sauf que
c'est pas du tout ça.
Finalement, la comparaison qui vient très très vite, c'est Papers, Please. On est beaucoup plus dans cette décision à la Papers, Please, où finalement tu es décisionnaire, tu reçois des informations, tu peux aller chercher des informations, mais au final, ta décision, le fait que tu prennes la décision, tu ne vas être pas puni par le jeu parce que tu n'as pris la mauvaise décision. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision, finalement, mais il y a
des jauges qui se remplissent en fonction des choix qu'on fait.
Tes décisions ont une conséquence sur l'univers du jeu. Et donc, c'est le parallèle, effectivement, et Papers, Please. Sachant que l'ambition est tout autre. En tout cas, le contexte, l'interface, le gameplay est beaucoup, beaucoup plus développé, entre guillemets. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Ça, c'est un truc. Mais il y a beaucoup plus de gameplay différent que dans un Papers, Please. Disons que les couches de gameplay ont une légère tendance à s'empiler.
Ça s'empile, au fur et à mesure.
S'empiler. C'est-à-dire...
Contrairement au côté un peu épuré de Papers, Please.
Exactement.
Qui était,
Tu as évoqué l'aspect graphique, il faut quand même en parler. On est donc sur du dessin, enfin voilà, il y a pas, il y a très peu d'animation, hein,
ou un peu de musique aussi d'ailleurs.
Un petit peu d'animation 2D à certains moments, mais on est très léger. Mais le design est magnifique. C'est une sorte de low poly. En fait, c'est marrant, c'est dessiné en low poly, en fait.
Ouais,
c'est
une sorte de polygone.
Ouais, c'est très agréable à l'œil. Et donc, c'est un côté dessiné et en même temps assez réaliste, parce que les scènes qui montrent, enfin les scènes sont assez prenantes quand même, enfin les scènes de violence, les scènes de révolte, les scènes d'émeute, les scènes, c'est quand même ça prend un petit peu aux tripes. Et qu'est-ce que tu as ressenti toi dans tes débuts, dans ta carrière de juge, c'est quoi le qu'est-ce que ça fait ressortir?
Mais en fait je l'avais pris comme tu le disais au tout début, comme une sorte de jeu d'aventure où on faisait des choix, où on enquêtait, et au fur et à mesure quand tu vois les jauges arrivées, tu te rends compte que c'est vraiment un jeu de plateau en fait. C'est un jeu de plateau où chaque enquête, enfin chaque enquête, chaque cas, est surtout l'occasion d'orienter l'avis qu'ont les révolutionnaires, les gens du peuple et le jury de ce que tu fais, de ton travail. Par exemple, pendant les interrogatoires, tu n'es pas obligé de poser toutes les questions que tu as découvertes. Quand tu as, par exemple, 13 questions et tu vois, tu as des petites icônes qui disent, par exemple, cette question-là va mener à influencer vers la guillotine, celle-là plutôt vers la libération.
On t'indique vers quoi ça
va. Oui, oui, et ça sur le jury. Hein. Ça, c'est l'influence sur le jury uniquement.
Okay. Mais c'est important.
Oui, parce que les gens du peuple et les révolutionnaires ont déjà des avis qui sont déjà assez fixe.
On les connaît.
Voilà, on les connaît de base. On sait que, par exemple, les révolutionnaires veulent la guillotine pour tel personnage, etc. etc. Et en fait, tu peux jouer quand même là-dessus. Et ce qui fait que tu as quand même l'aval du jury qui se dit « Ah bah, on est quand même écouté par le juge. » Et c'est intéressant de jouer avec ça. Au début, je posais toutes les questions de façon assez naïve.
Tout à fait.
Et en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, tu pouvais, même un personnage qui était au début, qui allait aller en prison, tu pouvais le faire relâcher et que tu avais le jury qui te suivait parce que tu avais réussi à ne poser que les bonnes questions, que celles qui sont intéressantes.
Ah, tu orientes clairement.
Tu orientes le jury, ouais.
Et ça, c'est une découverte. Ce qui est intéressant, c'est que ce système de jeu-là, on le découvre par le jeu. C'est-à-dire que le jeu ne nous dit à aucun moment que c'est possible. En fait, ce qui est commun d'appeler la boucle de gameplay de With the Revolution, finalement, le centre, c'est le procès. On va commencer, on a un accusé devant soi, un ou une accusée. On a le dossier. Donc, le dossier, c'est des pages écrites, le cas, l'enquête. Ouais. Qu'est-ce que l'enquête a révélé? Et on a les attentes des différentes factions du jeu. Les factions du jeu sont connues, c'est-à-dire sont le peuple, les révolutionnaires, l'aristocratie, qui arrivera un peu plus tard, et sa famille. Ça rappelle Papers, Please. Ouais, on a aussi la famille du juge. Hein. Donc, il y a un aspect vie personnelle du juge. Donc, on a les attentes des différentes factions, entre guillemets, du jeu. On sait que pour tel cas d'un aristocrate qui va être accusé de vol, on sait que les révolutionnaires attendent la guillotine.
Direct,
que les aristocrates attendent...
Donc, toi, tu vas te ranger d'un côté ou de l'autre?
Voilà.
Ou tu vas...
Non, alors, on a les attentes. On sait que les révolutionnaires veulent la guillotine, le peuple veut, vu que c'est un aristocrate, la guillotine aussi, les aristocrates veulent la liberté et ta famille n'a pas d'avis, par exemple. Pour le coup, elle n'est pas obligée d'avoir un avis. On a le jury. Le jury, lui, il va avoir une position en fonction des questions que tu vas poser à l'accusé. Et ces questions, tu vas les découvrir en faisant des liens un peu. Tu as lu le dossier et tu vas dire que tels éléments du dossier, bah, ça va être soit une pièce à conviction, soit la chronologie, soit un mobile.
Ça, c'est toi qui les débloques, en fait.
Voilà, ouais. Et tu débloques les questions en ayant bien lu le dossier et en faisant un peu des liens entre deux éléments. C'est-à-dire,
ce sont des questions fixes, en fait. C'est que tu as un ensemble de... Dès que tu es sur cet écran où tu fais cette découverte, tu dois découvrir les questions, on te dit le nombre d'erreurs auxquelles tu as le droit et le nombre de questions disponibles si tu réussis à faire le parcours sans faute. Et après, là, tu choisis. Et c'est à peu près logique en soi. J'ai pas
c'est
eu de problème.
Oui, voilà. C'est... Après, il y a des pièges. Il te prévient. Il y a des pièges. C'est-à-dire, il y a des associations que tu peux faire d'une manière logique.
Oui, c'est vrai. Ils disent aussi qu'il y a un piège.
Qui sont des pièges. Bref, tu débloques les questions possibles. Après, tu as ta liste de questions possibles. Ça peut être 4, 7, 9 questions. Et effectivement, comme le disait Raphaël, il y a l'influence de tes questions. Tu les connais. C'est-à-dire, une question va plutôt pousser le jury à aller vers la liberté et une question va pousser le jury à aller vers la guillotine. En passant éventuellement par la casse-prison. Et donc, en fait, le but du jeu, et tu t'en rends compte en jouant, ce n'est pas de découvrir la vérité.
Non.
Non.
C'est pas, c'est accessoire, ça, à la limite.
C'est accessoire. Accessoire. C'est, non,
c'est
finalement
une belle réflexion hein, sur le...
D'influencer le jury pour aller dans la direction de la décision et de la faction que tu veux satisfaire en fonction finalement de
ton alignement, c'est parce que ton alignement à toi
tes besoins pour
et de,
pour
et de l'équilibre politique de la vie
et familial du coup
et de l'équilibre politique familial de la vie
et pour continuer à travailler parce que sinon tu peux te faire licencier ou pour survivre sinon tu peux aussi mourir hein.
Voilà. et c'est là où effectivement la paternité papers please saute à la gueule hein. C'est que on est dans cette situation là où il faut jongler un peu avec ses aimants. Donc tout ceci marche terriblement bien. Je sais pas ton
presque avis. Jusqu'à la fin, oui.
Presque jusqu'à la fin. Moi, je ne suis pas encore à la fin. Mais arrive cet empilement perpétuel
de système
et de gameplay qui là, moi, m'a perdu. C'est-à-dire autant Papers Please dans son assaise ludique avait un message, avait quelque chose d'hyper fort, avait on sortait
performatif. Il était performatif parce qu'on devenait cette brique de l'administration en fait. On devenait concrètement
complètement.
Et oui, là, mais alors les nouvelles briques de gameplay qu'ils ajoutent, déjà c'est des choses où il y a encore une question d'influence devant la foule, etc., ou dans la ville pour influencer, enfin dans Paris. Mais c'est aussi des choses qui sont logiques parce que ça va avec l'évolution de l'histoire.
Ah mais je dis pas que tout est logique.
Puis t'as pas le même rôle que dans Papers, Please, voilà, non plus.
Mais sauf
on a un rôle plus politique et central dans l'histoire.
C'est assez logique finalement.
Mais c'est ce qui est logique. Hein, on est quand même à Paris en 1794.
Une ambiance très particulière.
Oui, c'est, bon, c'est pas. Hein, on est.
C'est pas forcément festif. C'est pas pour tout le monde.
Pas tout à fait.
On fait des soirées de jeux de société et tout ça dedans. Enfin, on lance des. On joue des.
Voilà, on joue des. Mais c'est juste que alors il va y avoir des complots à gérer, donc un gameplay spécifique pour les complots en étapes, jour par jour. Est-ce qu'on va décider de faire ça, d'espionner, de faire machin avec 50% de chances de réussite en fonction de nombre de machins.
Et ça, si tu le gères pas bien, par exemple, tu te plantes, et ça, si tu mets de côté certains.
Ouais, c'est plus difficile
tout,
après.
Tout ça
c'est
fait une recette.
C'est des jauges.
C'est des jauges.
Ouais. Tu les vois
après, il y a la carte de Paris qui s'ouvre où tu vas pouvoir déplacer des diplomates, des guerriers, des machins. Après, il y a un quartier qui est le tien où tu vas avoir une statue à construire pour augmenter ton influence et avoir plus de liberté. Après, tu vas avoir les discours au peuple pour engager. Et en fait, je ne dis pas que c'est illogique, je dis qu'on perd. On perd quelque part.
Tu as préféré en fait que le jeu reste sur le tribunal ?
Ouais, ou explore peut-être plus quelque chose qui nous mette face à nos contradictions. Moi, je sais qu'au début du jeu, par exemple, les premières guillotines, les premières condamnations à mort, t'es pas bien.
Ah non,
t'es pas bien, hein.
Puis après, tu t'habitues, c'est ça.
C'est intéressant, ça, justement. Si après, tu le fais de façon très
mécanique.
Ouais, alors moi, j'étais
administratif, tu sais.
J'étais pas bien à un niveau où j'aurais pas eu à en parler aujourd'hui. Je pense que je n'aurais pas continué. C'est, j'avais pas. Je dis pas que c'est inintéressant. Je dis pas que c'est injustifié.
Et ça qu'on te montre concrètement, c'est que tu. Donc toi, tu décides d'envoyer quelqu'un la guillotine.
Il y a un petit Louis Capet qui passe. Hein, premier, c'est un des premiers. J'imagine que t'as envoyé.
Oui. Pour être cohérent,
et
on va dire.
Du coup, t'assistes à ça.
Alors,
quoi.
Non seulement tu dis guillotine, mais après tu cliques sur la corde.
Ah oui, tu cliques sur le petit levier.
Ah
oui,
c'est chaud.
T'es bourreau aussi. Ah non, c'est la décision, ça, c'est la prise de décision, ça.
Non, tu fais ton cachet.
Là, gratuit. Ouais. Ça, c'est un peu gratuit.
Ah oui, parce que là, du coup, tu deviens le bourreau. Quoi.
Ouais. Et voilà. C'est et là, moi, j'aime pas. Hein, voilà, je suis pas.
Parce que tu rentres dans un rôle que n'a pas forcément le juge normalement.
Tout à fait. C'est peut-être le petit truc en trop. C'est peut-être l'idée de merde, en fait.
En même temps, ça te met face à une décision que tu as prise derrière ton bureau.
Oui, mais c'est une idée de merde. C'est une idée de merde. Parce que effectivement, t'as pas envie. Ouais. D'une part, t'as pas envie et t'as pas d'intérêt ludique. Je veux dire, c'est vraiment le truc où ils ont dit, lol, on va faire une lame qui tombe et la lame qui se, tu sais, cette lame qui se relève petit à petit et qui grince avec le sang qui
dégouline. Comment
disait
Guillotin, une petite sensation de froid dans le film, je crois qu'il y avait une phrase comme ça, c'est une petite sensation de froid.
Ouais, c'est pas indispensable.
Oui, et oui, je comprends, c'est un peu du spectaculaire
bref,
là où
le truc c'est qu'il y avait aussi il y avait quelque chose à jouer avec ça en dehors de cette corde sur laquelle cliquer, et je pense que ça c'était totalement inutile. Mais je pense qu'on pouvait aller plus loin dans cette recherche et finalement retrouver cette sensation aussi de Papers, Please, qui est tu es les décisions que tu prends. Tu dois, en fait, ce qui était fort dans Papers, Please, c'était que tu remplis, enfin, tu jouais avec des jauges aussi. Sauf que finalement, l'aspect narratif,
prenez le pas.
Tu écrivais ton,
récit, histoire. Finalement. Là, finalement,
c'est plus le contraire.
Là, finalement, l'aspect narratif, tu le lis. Tu vas débloquer des questions et puis après tu vas regarder des jauges. Tu vas te mettre à regarder des jauges et finalement.
C'est pour ça que je te parlais d'un jeu de société pour moi. Ouais. Plus. C'est un jeu de société où l'histoire et les personnages sont plus un fond qui sert à illustrer ce système de jauges et de classes. Enfin
mais finalement tu perds l'aspect narratif. On commence en disant.
Les mécaniques prennent le dessus, quoi.
On commence en disant With the Revolution, c'est un jeu narratif et finalement on y joue et plus on y joue, moins il est narratif en fait. Alors qu'il y a une histoire. Il y a une histoire,
mais
finalement c'est un objectif. L'histoire va se révéler être un objectif. Il faut finalement un survivre et deux arriver au bout du jeu. Et finalement pour arriver à cet objectif, on va essayer de jongler entre les différentes jauges, éviter de pas se faire.
Ne pas survivre. Qu'est-ce qui te fait tomber concrètement? C'est-à-dire que t'as l'opinion qui se retourne contre toi. C'est ça,
révolutionnaire contre toi.
Voilà, ou le peuple. Enfin, en fait, grosso modo,
si tu jauges mal,
t'as des jauges qui descendent et si elles arrivent, il y a une limite où ça commence à être un peu la merde. Et puis si elles se vident,
tu dégages.
Ouais, si
t'as quand même quelques choix. Par exemple, des choix qui ont un impact aussi sur l'histoire. Hein. Ouais. Tu peux ne pas signer tel papier pour que les forces de l'ordre puissent taper sur les manifestants. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, comme ils peuvent pas se battre, ils se font tuer. Il y en a un qui se fait tuer. Celui qui est venu te demander justement je crois que c'est un préfet ou je sais pas. Enfin,
sachant que on fait un petit spoiler alerte, mais c'est une des toutes premières missions.
Hein,
mais c'est elle est intéressante parce que c'est une des toutes premières. Donc si vous jouez tout ça, il y a cette demande. Est-ce qu'on, grosso modo, est-ce qu'on peut tirer sur la foule, hein, parce que c'est ça.
C'est très actuel. Hein.
Oui, c'est
actuel. On est en plein dedans.
Peut-on tirer sur la foule? Et en fait, dans un cas, tu dis non, et donc le mec se fait buter. Il pouvait pas tirer, donc tu comprends. Et dans l'autre cas, tu dis oui, et la foule en a pris cher. Et donc tu vas devoir le juger. C'est pour dire
ça, c'est intéressant.
Mais il y a des choses intéressantes comme ça. Mais je trouve que il y a une sorte de millefeuille un peu écœurant de gameplay au final. Moi je trouve que oui, il y a ce côté jeu de plateau qui prend le dessus et qui
et du coup ce qu'on garde de Papers, Please, c'est ça, c'est ton récit à toi finalement. Et là je sais pas si on garde ça au final. Ça sera peut-être la...
Mais super intéressant. En tout cas, ceux que ça tente, hein, With the Revolution, c'est sur PC, je crois. Uniquement,
PC Mac.
PC Mac uniquement. Une vingtaine d'euros, je crois. Je ne suis pas sûr. Vous pouvez aller vérifier. Je vous laisse vérifier. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Alors cette semaine, on va bouffer avec Festo. Nous sommes la veille du plus grand banquet du royaume et les joueurs sont affairés à préparer des plats et des pâtisseries en tout genre. Au centre de la table, il y a un grand plateau sur lequel sont représentés des magasins, des boutiques dans lesquels on pourra acheter des ingrédients. Il y a aussi une épicerie dans laquelle tous les ingrédients sont disponibles, mais en toute petite quantité. Le jeu se joue en 4 tours qui sont divisés en plusieurs phases. Lors de la première, on va envoyer ses petits cuisiniers faire du shopping. Il y a 6 boutiques et donc 6 ingrédients différents. Attention parce que par deux fois, le matin et l'après-midi, on va jeter 2 dés pour désigner 2 boutiques qui vont être fermées. Lors de la phase suivante, on va passer sur chaque boutique pour savoir quel joueur reçoit quoi par un système de majorité. Les boutiques étant tenues par des trolls, des pixies, des orques, des magiciens, des elfes et des nains, on pourra éventuellement bénéficier de leurs pouvoirs particuliers. En fait, le joueur qui aura le plus de cuisiniers dans le magasin pourra choisir entre tout prendre ou alors ne prendre qu'un premier ingrédient, laissant éventuellement ce restant aux autres joueurs, pour pouvoir aussi ensuite utiliser le pouvoir du vendeur. Le troll vous permettra de passer un ingrédient d'un magasin à l'autre, les pixies vous permettront elles de déplacer des cuisiniers lors de cette deuxième phase. Les orques vous permettront d'utiliser un ingrédient de moins lors de la confection des plats. Les magiciens vous donneront du sel qui permettra de remplacer n'importe quel ingrédient.
Quoi, par du sel?
Oui, oui, c'est comme un joker.
N'empêche qu'on peut pas tout saler comme ça.
Ouais, mais non, mais bon, c'est Game Brewer, hein, c'est un éditeur belge. Hein, ça, c'est la cuisine salée, quoi, tu vois.
Ouais, bon,
Ensuite, il y a les elfes qui vous permettront de remplacer un ingrédient par deux. Et les nains qui vous donneront deux jetons spéciaux qui vous permettront de rentrer dans le magasin avant l'ouverture. Et puis, dans la dernière phase, on va préparer tous ces plats en fonction des ingrédients qu'on aura récupérés. Évidemment, il y a des plats qui rapportent plus de points que d'autres, avec plus d'ingrédients, plus compliqués à amasser. Et puis, plus notre buffet sera varié avec des plats différents, plus on aura des bonus, des points supplémentaires. Festo est un jeu coloré, joyeux, avec plein d'illustrations très sympathiques. La boîte est bien fournie avec plein de matériel de qualité. Ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 1 heure. L'auteur Harvey Fuller, je vous l'ai dit, donc l'éditeur, ce sont les Belges de Game Brewer. Je sais pas trop comment il est distribué en France, c'est pas bien clair, mais je l'ai trouvé pour 37,50€ chez Philibert, là, il est dispo. Et clairement, je vous le recommande. Bon, ça commence à bien faire, hein, ceux qui s'y sont pas encore mis. Vous avez franchement pas l'impression de passer à côté de quelque chose ? Va falloir essayer, hein, les jeux de plateau. Bye bye.
Bye bye Jérémy et félicitations à ce guest inattendu dans ta chronique. C'est le moment de partir. Allez, on était à New York, il faisait froid. Ça c'était avant. Parce que 7 mois plus tard, forcément, bah, il fait moins froid.
Les cœurs se réchauffent, pas quand même.
C'est pas mal comme intro quand même. Non, elle est bien, non? Elle est bien comme intro. Et nous sommes cette fois-ci à Washington et ça commence par le plus connu de ces endroits de Washington. Le jeu commence directement, quasiment directement à la Maison Blanche. C'est évidemment The Division 2.
Nous pensions avoir arrangé les choses avant qu'un cri de détresse ne retentisse depuis Washington.
Notre Capitole est tombé. Nos dirigeants sont morts ou portés disparus. Notre nation est sur le point de s'effondrer. Et nous représentons le dernier espoir.
Le joueur représente le dernier espoir d'une nation sur le point de s'effondrer. Voilà, on a fait le scénar. C'est original.
C'est ça.
Jamais vu. En même temps, c'est du Tom Clancy. Ouais. On va pas. Hein, est-ce que finalement l'ambition là est scénaristique?
Non, c'est pas le but. Hein.
C'est pas le but.
On a un background qu'on connaît déjà via le premier.
Tout à fait.
Grosso modo, il y a
qui tenait sur une demi-page.
À peu près, oui. Black Friday,
une épidémie,
une épidémie, critique du consumérisme. Enfin, pas vraiment en fait.
Non. Critique. Non, mais où tu vas là?
Non, on vient pas à The Division pour ça.
On vient sur The Division 2 pour l'occasion. Pourquoi, Patrick?
Pour jouer, fighter et débloquer débloquer toute une carte. Et ça marche. Moi, je trouve qu'il y a un système. On reprend. Donc, on est sur du jeu d'action troisième personne, multijoueur. C'est du jeu un peu à la Gears of War. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du jeu de tir. On va beaucoup jouer sur le décor pour se dissimuler, se protéger, etc. Et je trouve que la mécanique marche très, très bien. Alors, a priori, il révolutionne pas. Moi, j'avais joué au premier au lancement. J'ai pas suivi. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'extensions. Le jeu
énormément
a été très enrichi. Ubi sait très bien faire ça. Ils avaient fait ça aussi avec Rainbow Six. C'est-à-dire lancer un jeu. C'est le fameux jeu service. Raphaël, je sais que tu as pas mal travaillé là-dessus. Et c'est vrai que ça, ils savent très bien le faire. Lancer un jeu et le suivre, le retravailler. Ils n'hésitent pas même des fois à le remodeler même au fil du temps en écoutant les retours des joueurs. Ça, ils savent très bien le faire. Et là, je trouve que finalement, ils reprennent les bases du premier, mais d'un premier qui a été augmenté aussi au fil du temps, des extensions, etc. Et la mécanique, elle est super addictive. Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté, tu te lances là-dedans. C'est un jeu ultra qui te bouffe le temps. C'est-à-dire que moi, j'avais commencé un peu à jouer à la bêta ouverte, je crois une semaine avant le lancement du jeu. J'avais déjà passé un temps fou dessus. Et là, les heures filent et quand j'ai vu mon compteur de temps passer, j'ai ah ouais quand même. Et c'est vrai qu'il y a ces systèmes qu'Ubisoft gère très bien, tu sais, de mini missions secondaires, de missions principales qui t'envoient partout, etc. Et puis encore une fois, c'est vraiment le gameplay est bien huilé, je trouve, sur ce il est super addictif. Il y a un vrai feeling. Moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est le feeling des armes. Parce qu'il y a une composante d'évolution de ces personnages qui est assez importante, avec des armes que tu optimises, on passe beaucoup de temps à looter. C'est un jeu de loot où tu récupères beaucoup d'éléments pour améliorer ta base, ton personnage, etc. Et par contre, c'est vrai que t'as un vrai rendu, je trouve, des armes, t'as un vrai feeling quand tu changes d'arme, tu le sens. C'est-à-dire que ça se sent vraiment dans ta façon de jouer, dans ton expérience de jeu. Et encore une fois, voilà, je trouve que ça marche très très bien ce côté, tu sais, bataille urbaine, bloc à bloc, rue à rue. Et ça, je trouve que tu le ressens dans ta partie, c'est que chaque rue que tu prends, tu avances et t'as vraiment ces combats assez secs. D'une rue à l'autre avec des affrontements avec c'est les hyènes, je crois, la première vague que tu rencontres. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est que contrairement, évidemment, quand tu lances un jeu comme The Division 2, tu as un peu le fantôme de Destiny 2 qui est là, hein, le Destiny 2 qui n'a pas réussi à rebondir assez sur le premier, à avoir une vraie proposition qui enrichisse le jeu. Bah, pareil, Destiny 2, il s'est recalculé au fil du temps, il s'est amélioré un peu avec des rustines dans tous les sens. Et là, The Division 2, je trouve que, bon, déjà, t'as un background complètement différent, c'est-à-dire que t'es pas dans de la fantasy, science-fiction, kitschissime à la Destiny, t'es quelque chose de plus froid, de plus réaliste. Et moi, finalement, c'est ce que je retiens, mes dizaines d'heures de jeu sur The Division 2, et je vais le faire une fois, c'est la première, j'arrête. Division 2.
C'est moi, fait.
Et je vais conclure là-dessus sur un peu cette exposition. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté réaliste de l'univers. Ça, c'est l'ADN Clancy, hein.
C'est l'ADN Ubisoft aussi.
Depuis une dizaine d'années,
ouais, à peu près.
Et moi, j'avais déjà un peu parlé de New Dawn ici il y a quelques semaines sur justement ce rapport à la géographie, au décor. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de The Division 2. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est ça, c'est ce côté, cette exploration. C'est presque de l'urbex post-apocalyptique. c'est ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que finalement, t'es jeté là-dedans sans vrai, apport scénaristique. Hein, c'est vas-y, tu joues. Balance-toi là-dedans, avance et fais ton jeu.
Tu es un agent, vas-y, fonce.
Vas-y, débrouille-toi.
Avec ce côté qui je trouve totalement décomplexé. Hein.
Ah oui, mais vas-y.
Là pour le coup.
T'es là pour jouer, vas-y, joue, avance.
T'arrives, t'es agent de The Division. Agent de The Division qui arrive à Washington et t'es le sauveur. Quoi. Enfin, t'es genre.
Et tu sens qu'ils essaient même pas de survendre ça. Tu sens que t'as tes missions qui se mettent en place, ta carte qui s'ouvre, tout ça, on connaît. C'est la formule Ubi qu'on connaît par cœur. Par contre, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il n'y a pas d'histoire ou quasiment pas. C'est pas un jeu narratif. C'est vrai que tu joues pas à The Division pour de la narration. Par contre, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que presque à chaque coin de rue, t'as une petite histoire raconté par les décors. Moi, ce que j'ai aimé, c'est d'explorer des endroits, comme tu disais, ultra connus, la Maison Blanche et d'autres. Il y a des endroits connus de Washington que tu découvres sous ce prisme de quasiment de fin du monde et que tu découvres souvent complètement retourné, complètement détruit. Et moi, j'ai aimé un peu cette version, cette réalité pervertie par la fiction à la Clancy, au fait, où t'es au bord de la fin du monde, quoi. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est t'as presque à chaque coin de rue une petite histoire.
Ça fourmille en fait de micro-narration environnementale.
Exactement. Et ça, je trouve que c'est vraiment. Moi, c'est ce que je retiens. À côté, évidemment, des mécaniques de jeu qui sont bien, même s'il y a des petits points peut-être à revoir. Mais en tout cas, c'est ce que je retiens. Moi, je me rappelle d'être passé un moment dans une rue où j'ai vu une grue complètement renversée sur un immeuble. C'est tout bête, mais tu vois, inconsciemment, tu te fais un peu l'histoire du truc. Tu imagines un peu ce que les gens ont pu vivre à cet endroit de telle ou telle rue. Puis évidemment, tu as des endroits ultra connus que tu visites dans un état lamentable. Il y a un vrai background, je trouve.
Raphaël.
Ah, il est à fond. moi, j'ai eu un début un petit peu plus. Sur le recul sur le jeu, parce que je sortais de Anthem, donc le fameux,
on va en parler, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle
j'en parle de 30 secondes. Je sortais de là et donc de robots qui s'envolent et foncent après des missions nulles et un loot nul, mais tout ce qui était mécanique de jeu et dynamisme de jeu et de prise en main, ergonomie était extraordinaire. On n'a jamais vu un jeu d'Iron Man aussi bien, quoi.
C'est du Iron Man, on n'a jamais
réussi à faire aussi bien.
Mais quand même beaucoup de pets au lancement. Enfin,
donc j'ai commencé à jouer à The Division. J'ai fait pareil, bêta, les press events, etc. Et j'étais sur la défensive un petit peu sur le côté. Bon, c'est Division 1, mais avec tous les apports dont tu parlais tout à l'heure.
C'est un skin.
Et sans plus, c'est surtout que j'étais à ce moment-là dans Anthem. Et avec cette dynamique. J'avais pas encore vu la fin du jeu.
Qui voltige.
En fait, en y jouant plus longtemps et en faisant le test en fait pour un magazine, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup plus de plaisir à jouer à ce jeu qui était finalement solide. C'est-à-dire que quand The Division 2 sort, là, il est solide. Il y a des bugs, évidemment, comme dans tous les jeux.
Il y a eu un gros patch, c'est tout.
Moi, je l'avais testé sur PS4 traditionnel pour voir, parce que j'aime bien en fait prendre la version, l'inférieure version,
non,
pour voir si ça tourne correctement ou pas.
Moi, j'ai joué là-dessus et ça tourne. Hein.
Et ça tourne. Il y avait des bugs graphiques, des textures.
Des textures, moi, j'ai toujours ça. Hein. J'ai encore ça, les textures qui arrivent. Mais peut-être que c'est parce que c'est une PS4 première génération, je sais pas.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas relancé depuis depuis deux semaines, donc je sais pas si ça a été patché ou pas. Mais toujours-t-il. Et au fur et à mesure que les missions, que je faisais des missions, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain génie, pour le coup, on va dire, dans le level design. Et c'est plus ça qui me faisait tenir. C'était la découverte, ce que tu disais de tout ce qui est le fourmillement de détails, mais aussi le level design, notamment une des missions, une des premières qui m'a vraiment scotché, c'était celle qui se passe dans un bâtiment où il y a tout un circuit à faire et on monte, on descend, on passe par l'extérieur et tout ça. Et j'étais c'est là que j'ai accroché. C'est à ce moment-là que j'ai accroché au jeu et j'ai continué ensuite par la suite. Plus que le loot, tout ça, quelque chose de assez traditionnel, même s'il marche super bien et qu'il est très bien réglé. Enfin, il y a. Comparé à Anthem, c'était le jour à la nuit, quoi.
Ouais, j'imagine. Ouais.
Il y a ce côté Ubisoft, ils ont un côté incrémental. Ubisoft, c'est depuis 10 ans, depuis 15 ans, ils ont un côté incrémental, c'est-à-dire que chaque jeu qu'ils font, ils sont sur les épaules des géants, enfin des jeux précédents, en fait. Et c'est ça qui est assez passionnant avec ce qu'ils font, c'est que il y a ce côté où on apprend, on fait mieux, on apprend,
là,
on fait mieux.
Et 8 studios dessus. 7-8.
Ah ouais, la liste.
C'est aussi leur force,
Massive Entertainment, donc évidemment le lead, mais après t'as Ubisoft Sofia, Ubisoft Annecy, Ubisoft.
Il y en a qui font juste les voitures,
Red Links, Red Links qui sont aussi dessus. Enfin bon, c'est
Red Links.
Ouais.
D'accord.
Il y a le studio de Driver aussi.
Oui, Reflection.
Reflection. Ça s'appelle plus Reflection d'ailleurs.
Non. Ils ont changé de. Mais oui, il y a beaucoup de monde au. Mais moi vraiment ce que je retiens, donc en dehors de ces décors, c'est le gameplay qui est bien huilé, parce que finalement ils ont repris le gameplay de l'original sans le révolutionner, mais il est un petit peu ajusté, et je trouve que le système de cover est super bien fichu, parce que c'est le cœur du jeu, hein, c'est de se planquer, d'avancer comme tu vois dans les films d'action, et là je trouve que c'est très bien fichu.
Alors moi c'est très étrange, hein, alors j'ai juste commencé à prendre en main le jeu, hein, je n'ai pas du tout votre expertise, mais juste pour je trouve que l'introduction du jeu est tellement plus brillante que celle de The Division 1. Alors je sais pas, ça se joue sur des détails.
Oui, quand tu passes, c'est une sorte de, c'est une fête là, ça, c'est pas une forêt,
ouais,
comme ça.
Alors parce que
j'aurais plus sa date déjà pour moi l'intro.
Alors d'une part, elle est déjà hyper colorée. Bon, c'est l'avantage de ne plus être en hiver, hein, de fête. On n'a pas de scénario. Ça, alors bizarrement, sur un jeu comme The Division, il y avait un scénario, on nous expliquait tout un contexte.
C'était aussi le début,
machin et tout ça. Et il fallait expliquer que l'humanité allait résister.
Les agents dormants, etc.
Bon, là, que dalle, quoi. Tu commences, c'est coloré, machin. Washington a besoin de nous. Je reste ici, vas-y. Bah, on y va. J'arrive à Washington.
C'est la bonne franquette.
J'arrive à Washington, je fais 200 mètres, je suis à la Maison Blanche, je tue trois mecs en détour. Hop, là, c'est ta base. Il y a une meuf, elle est au théâtre, tu vas la chercher. Ok,
ça part direct.
Et en fait, on te dit, avec ce quart d'heure, ces 20 minutes de jeu d'introduction pure, on te dit, t'es là pour jouer à la guerre.
Ouais.
Non, mais c'est ça. On te met dans l'état d'esprit
décontracté
et on te dit, c'est quoi l'ambition, c'est quoi, où est-ce que tu es. Et pour le coup, je trouve ça parfait.
Bah oui,
tu vas jouer à la guerre et on joue à la guerre comme quand on jouait à la guerre quand on avait 12 ans, quoi.
Comme quand on jouait au jeu d'arcade. Il n'y avait pas de scénario. On y allait direct.
Il y a un côté vraiment axé, je sais pas si on appelle ça fun centrique ou je sais pas.
Catharsis.
Alors pour moi, il n'est pas du tout cathartique.
Ah ouais,
on est pas dans. Il y a aucune violence. Pour moi, c'est pas absolument pas un jeu violent.
Ce qui est paradoxal, parce que
c'est un jeu
où
tu tires sur des choses qui bougent très
les
loin.
Méchants,
sur des couleurs, hein, parce que en fait, tu tires sur du rouge, tu tires sur du jaune, tu tires sur
du
violet.
Des compteurs, t'as des compteurs.
Et je trouve que c'est c'est fun, c'est juste fun, avec en plus cette, ce côté exceptionnel d'être, d'avoir un fun démultiplié par le multi. C'est que on fait les missions, c'est totalement jouable en solo, et dès qu'il y a 2, 3, 4 personnes, dès que tu entends un agent a besoin d'aide, dès que tu entends machin, hop, voilà, il y a ce côté multi qui s'insère et qui fonctionne incroyable.
Alors oui, c'est jouable en solo, c'est un petit peu plus dur quand même. J'ai souvenir, enfin, un vieux souvenir du premier qui était peut-être un petit peu plus simple en solo.
Oh, t'avais des. Moi, je me rappelle de passages.
Des boss.
Tu sentais vraiment. Ouais, t'avais des passages, tu disais, bah, c'est pas possible. T'avais des sacs à PV infinissables. Vraiment, c'était déprimant même. Ouais.
Mais j'avais l'impression là que c'était un petit peu plus chaud dès le début. Mais après, c'est vrai qu'une fois que t'as un peu de matériel et que t'as un niveau, de toute façon, ça passe assez facilement.
Et une fois que tu débloques la compétence de soin.
Et puis ces gadgets, les drones.
Quoi, les drones sont super cool.
C'est super cool.
J'adore me balader avec un drone de nuit. Et tu sais, il est au-dessus de toi là et t'as une sorte d'impression d'être dans Blade Runner ou un truc comme ça. Tu sais, c'est rigolo. Mais ce qui est marrant, c'est tu parlais du fun immédiat et je pense que on va vers ça chez Ubisoft, parce que même regarde Assassin's Creed au final. Très rapidement, le dernier, tu rentres dans l'action, quoi. T'es pas, tu pars en voyage, t'as une petite heure là, parce qu'il faut bien poser quand même quelques enjeux, mais t'es parti, quoi. T'as ton frère.
Après, tout dépend des ambitions. Moi, je sais que là, l'ambition de The Division 2, elle est claire, nette et précise, elle est sans détour. Moi, j'ai pas la même ambition quand je lance un Assassin's Creed.
Au niveau narratif, au niveau ambiance, pas le même.
Alors, là où je voulais en venir, c'était justement cette idée de jeu service dont on parlait tout à l'heure, qu'on a évoqué très légèrement. Et est-ce que c'est pas ça le futur du jeu vidéo ? On parlait tout à l'heure de Google qui se met sur au cloud, tout le monde se met au cloud. Et est-ce que c'est pas cette convergence là entre des jeux qui sont immédiats dans l'interaction où tout le monde connaît les mécaniques, cover, tirer, et tout est placé. Maintenant, l'ergonomie, elle est intégrée par tous les joueurs. Il y a eu 10 ans d'apprentissage des mécaniques de FPS, TPS sur console.
Bon, là, il y a encore des. Je trouve que le menu est quand même un peu gras. Hein. Il n'est pas
fait. Ouais, c'est pas.
Il faut encore. Tu vois, toi, tu connais bien en plus la question du RPG. Je trouve qu'on rentre quand même là. On commence à avoir des sous-menus. Il n'est pas forcément très fluide.
Il faut jouer en SEM, tu vois.
j'ai commencé, c'est dur.
C'est très dur. C'est pas ça non plus.
Mais tu vois, je trouve qu'il y a encore un petit côté rustique encore, je trouve, dans les menus.
Ouais,
dans
mais tu sais, ils l'ont vendu, je te rappelle que The Division, ils l'ont vendu comme leur RPG à une époque. Il faut quand même qu'il y ait une. S'il n'y a pas cette mécanique de loot et de RPG et de progression, toujours dans cette optique de jeu service, t'as pas l'impression de. Il faut que tu aies envie de continuer.
Sachant que contrairement, peut-être, enfin pas contrairement, parce que c'est toujours été l'ambition des jeux services, mais là, c'est clairement précisé que ton avatar est capé à 30, level 30. Jusqu'au...
Pour l'instant.
Pour l'instant. Que ces 30 premiers niveaux. De grimpette, de comment on appelle ça, de farming, de leveling, de grinding,
d'optimisation.
C'est l'intro. C'est-à-dire que en fait,
c'est ce qu'ils disent tous depuis Destiny.
A priori, moi, ce que j'ai lu, en tout cas, j'en suis absolument pas là, c'est que là, il y a clairement un gros focus sur ce qu'on appelle le endgame de ces jeux-là.
Ouais, qui est plus du endgame, parce qu'en fait, c'est vraiment le début du jeu où
la nouvelle section, là, les nouveaux méchants qui débarquent.
Qui sont mieux armés que toi, enfin, mieux armés que les précédents, qui ont une IA qui est beaucoup plus agressive, mais qui sait surtout mieux se planquer.
Oui.
Donc et c'est là que tu te rends compte que les trois branches de spécialisation, elles ont un rôle à jouer, quoi, surtout quand tu joues en team, quoi, enfin en équipe, parce que c'est vrai que tout seul là, ça devient un peu plus compliqué, pareil.
Mais sachant aussi que encore une fois, c'est un jeu centré sur le fun et sur le fun à plusieurs, c'est-à-dire gérer des vagues d'ennemis quand t'es trois ou quatre et tout ça, et s'organiser, trouver des stratégies, et justement, plus tu trouves la force a priori de The Division 2, c'est d'avoir une IA qui s'adapte aux stratégies des joueurs, et c'est pas simple de rester planqué, même quand t'es bien posté et tout ça, il faut bouger.
Tu peux pas rester planqué de toute façon, mais c'est pour ça que le système de déplacement sous cover contextuel a été implémenté. C'est qu'il faut que tu sois tout le temps en mouvement, tu peux pas rester, parce que rien que les hyènes viennent te chercher, quoi.
Ils font le tour, ils se détachent, ou
il y a des beaux moments d'IA qui m'ont rappelé qui m'ont rappelé un peu Half-Life à l'époque, quoi, même si pour le coup c'était un peu scripté, mais qui marche, ça veut de voir une IA qui fait le tour et qui te prend sur le côté et qui se cache et qui attend en fait son bon moment pour
tirer. C'est ça que le drone peut être intéressant.
Le drone dans ces passages là, c'est bon copain quand t'es tout seul.
Bien quand on peut le lâcher.
Belle réussite de la part d'Ubisoft.
Alors moi après c'est l'interface, je trouve. Alors encore une fois, je trouve que ça claque, c'est sec, ça marche plutôt bien. Les gunfights ont vraiment de la pêche. Moi c'est plus interface. Alors toujours, je joue sur PS4, toujours le logo X devant toi. Dès que t'arrives devant un objet, je trouve que visuellement il y a un truc. Peut-être qu'on peut l'enlever. Peut-être que dans l'interface on peut retirer ça. J'ai tout le temps ce truc qui arrive devant moi et ça m'énerve. J'ai toujours l'impression que je peux avoir une interaction. Finalement, on a très peu d'interactions avec le décor. Bien sûr, c'est pas le but.
Mais
je trouve qu'il y a quand même encore une raideur quand tu explores un peu l'univers. Tu vois, t'as encore des raideurs. Tu te bloques contre des murs invisibles parfois. T'as un côté un peu.
Moi, je trouve que c'est bien fait.
Mais après, c'est la mécanique du jeu.
C'est un beau produit.
Mais oui, on est d'accord que
c'est un beau produit qui marche super bien,
qui a une durée de vie colossale et qui est pas fini parce que c'est un jeu qui va aussi être soutenu sur la durée, qui est là pour.
Au niveau performance, sans vouloir balancer mon camarade, mais Marius, donc il vient très souvent ici, a commencé, fait partie d'un clan dans The Division 2. Ça veut dire qu'il est parti dedans. Il joue en ligne, il joue avec des gens, Marius. Ça m'a très étonné. Je dis ça juste pour balancer mon pote, c'est pas grave. The Division 2, donc pour l'instant, enfin en tout cas dans cette première.
Ce n'est pas un jeu politique.
Là pour le coup,
contrairement à ce que.
Ça, puis quand tu avances, tu as aussi les clans qui se mettent entre eux, c'est qui s'affrontent aussi. C'est intéressant à voir.
Eh bien, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo, chers amis. Merci à tous les deux. Ah, je t'ai même pas prévenu sur la séquence qui suit, Raphaël.
Quelqu'un m'a prévenu.
C'est bon, filtré. Et donc, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Alors, moi, je suis allé au cinéma. ça m'arrive. Des choses qui arrivent. Et en fait, je suis allé voir Us. Jordan Peele. Alors moi, c'est un monsieur que j'avais beaucoup apprécié son travail sur Get Out, qui pour moi était, c'est un grand grand film d'horreur, d'épouvante, assez engagé en plus, avec une sorte de brûlot anti-racisme et puis un brio en termes de réalisation. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup 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 aimé, que je mettais au niveau d'un très bon épisode de Twilight Zone. D'ailleurs, c'est pas un hasard si lui travaille d'ailleurs sur une nouvelle saison, une nouvelle version de la Twilight Zone.
Quatrième dimension. En France.
Et c'est culte, tellement culte. Et là donc Us, son nouveau film, et déception. Je sais qu'il a très bonne presse, le film, et moi c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais il aborde le sujet du doppelganger qui avait été aussi abordé notamment un épisode culte de la quatrième dimension, et je trouve qu'il n'en sort pas grand chose. Alors en termes de réalisation, c'est quasiment intouchable, c'est-à-dire que c'est très très bien fichu. Moi, c'est le propos, je trouve que finalement il n'apporte pas énormément. Je vais sûrement me faire taper dessus pour ça, mais je suis resté sur ma faim et je trouve qu'on est loin du chef-d'œuvre qui était Get Out, qui était vraiment un film que j'oublierai jamais, qui m'a vraiment marqué. Là, j'en suis sorti en me disant il apporte pas grand chose. Dans le film, il y a des choses qui arrivent mais que tu vois venir pendant tout le film. D'accord, c'est ça. Et je vais pas spoiler, mais déception. Donc à voir, on va voir ce qu'il va faire en toi d'un mythe comme la quatrième dimension. On va voir ce qu'il en fait.
Raphaël.
Alors moi, je regarde des séries. Parce que j'ai pas le temps d'aller au cinéma, et notamment une qui s'appelle Doom Patrol, qui est pas, je crois pas qu'elle soit diffusée en France, donc on l'obtient de Doom Patrol. C'est en fait un comics de Grant Morrison, enfin c'est pas lui qui l'a créé, mais qui est surtout connu par l'arc narratif de Grant Morrison, qui est un scénariste peu connu.
Batman,
qui a fait du Batman, qui a fait Doom Patrol, qui a fait The Invisibles, et qui dernièrement
qui est pas connu pour sa simplicité.
Non, qui est pas connu. Non,
voilà. Il est pas simple d'accès.
Plutôt le contraire. Ouais. Mais Doom Patrol, il a réussi à faire un truc un peu poétique à l'origine, enfin quand il faisait la bande dessinée, surtout vers la fin, avec des personnages complètement barrés. Donc il y a un homme robot, il y en a un des personnages qui n'est juste que matière, enfin matière, comment dire.
Capitaine Flamme.
Non, pas Capitaine Flamme. Non, mais qui est enrambé qui est couvert de bandages et qui peut en fait sortir de son corps, mais qui n'a plus de corps en fait.
D'accord.
Son corps n'est maintenu que par des bandages. Il y a aussi une personne qui s'appelle une héroïne qui s'appelle Crazy Jane, qui a je ne sais plus combien de personnalités et qui en change quasiment toutes les 30 secondes. Et donc voilà, il y a une série qui a été faite là-dessus. C'est très intéressant. C'est pas extraordinaire, mais il y a de l'humour. C'est bizarre. C'est vraiment le côté X-Men, mais X-Men raté. C'était déjà le cas dans le comics, mais ça marche plutôt pas mal.
Qui date de quoi, pardon, le comics, il est...
Je crois que c'est des années 80, début des années 90, la version de Grant Morrison, puisqu'il avait commencé bien avant.
D'accord. Okay. Ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé de podcast ici même, et donc je vais parler pour une fois d'un podcast qui n'est pas un podcast de Binge Audio, que j'adore, les podcasts de Binge Audio, mais pour une fois, ce n'est pas eux. Mais et c'est un peu, pour moi, j'ai découvert ça récemment, alors j'en avais beaucoup entendu parler, ça faisait très longtemps que j'en avais entendu parler, mais j'avais eu du mal un peu à commencer, j'en suis à 8 ou 9 épisodes sur 16 qui sont disponibles. C'est tous les mois que ça sort, ça s'appelle Un Podcast à Soi, c'est Arte Radio, c'est Charlotte Bien-Aimée, donc c'est un podcast sur le féminisme, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un thème à chaque fois, un thème abordé en 50 minutes à une heure à chaque fois. C'est super bien réalisé, c'est des monuments à chaque fois. Le boulot réalisé par Charlotte Bien-Aimée, donc, qui est à l'origine de ce podcast, est dingue. Il y a des podcasts très durs, des podcasts avec des témoignages qui sont vraiment, vraiment pas faciles, mais le sujet en lui-même n'est pas facile. Je vous conseille d'écouter ça parce qu'on apprend énormément de choses. Il y a 16 épisodes disponibles. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on peut apprendre en 16 épisodes sur le féminisme. C'est vraiment une perle. Je ne saurais assez le conseiller. Ça s'appelle Un Podcast à Soi et c'est un podcast d'Arte Radio. Merci à tous les deux pour cette émission. Merci à Quentin Bresson à la réalisation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr, sur Binge.audio et sur les internets. Ciao.